Voltaire, dictionnaire philosophique, La raison par alphabet, 1769, 8 questions sur la religion. Première question. L'évêque de Worcester, Warburton, auteur d'un des plus savants ouvrages qu'on ait jamais fait, s'exprime ainsi, page 8, tome 1er. Une religion, une société qui n'est pas fondée sur la créance d'une autre vie, doit être soutenue par une providence extraordinaire. Le judaïsme n'est pas tombé sur la créance d'une autre vie. Donc le judaïsme a été soutenu par une providence extraordinaire. Plusieurs théologiens se sont élevés contre lui. Et comme on rétorque tous les arguments, on a rétorqué le sien. Et on lui a dit: toute religion qui n'est pas fondée sur le dogme de l'immortalité de l'âme et sur les peines et les récompenses éternelles est nécessairement fausse. Or, le judaïsme ne connut point ces dogmes. Donc, le judaïsme, loin d'être soutenu par la Providence, était par vos principes une religion fausse et barbare qui attaquait la Providence. Cet évêque eut quelques autres adversaires qui lui soutinrent que l'immortalité de l'âme était connue chez les Juifs, dans le temps même de Moïse. Mais il leur prouva très évidemment que ni le Décalogue, ni le Lévitique, ni le Deutéronome n'avaient dit un seul mot de cette créance, et qu'il est ridicule de vouloir tordre et corrompre quelques passages des autres livres pour en tirer une vérité qui n'est point prononcée dans le livre de la loi. Monsieur l'évêque, ayant fait 4 volumes pour démontrer que la loi judaïque ne proposait ni peine ni récompense après la mort, n'a jamais pu répondre à ses adversaires d'une manière bien satisfaisante. Il lui disait: ou Moïse connaissait ce dogme, et alors il a trompé les Juifs en ne le manifestant pas, ou il ignorait, et en ce cas, il n'en savait pas assez pour fonder une bonne religion. En effet, si la religion avait été bonne, pourquoi l'aurait-on abolie? Une religion vraie doit être pour tous les temps et pour tous les lieux. Elle doit être comme la lumière du soleil qui éclaire tous les peuples et toutes les générations. Ce prélat, tout éclairé qu'il est, a eu beaucoup de peine à se tirer de toutes ces difficultés. Mais quel système en est exempt? Seconde question. Un autre savant, beaucoup plus philosophe, qui est un des plus profonds métaphysiciens de nos jours, donne de fortes raisons pour prouver que le polythéisme a été la première religion des hommes, et qu'on a commencé à croire plusieurs dieux avant que la raison fût assez éclairée pour ne reconnaître qu'un seul être suprême. J'ose croire au contraire qu'on a commencé d'abord par reconnaître un seul dieu, et qu'ensuite la faiblesse humaine en a adopté plusieurs. Et voici comme je conçois la chose. Il est indubitable qu'il y eut des bourgades avant qu'on eût bâti des grandes villes, et que tous les hommes ont été divisés en petites républiques avant qu'ils fussent réunis dans de grands empires. Il est bien naturel qu'une bourgade effrayée du tonnerre, affligée de la perte de ses moissons, maltraitée par la bourgade voisine, sentant tous les jours sa faiblesse, sentant partout un pouvoir invisible, ait bientôt dit: il y a quelqu'un au-dessus de nous qui nous fait du bien et du mal. Il me paraît impossible qu'elle ait dit: il y a deux pouvoirs, car pourquoi plusieurs? On commence en tout genre par le simple, ensuite vient le composé, et souvent enfin on revient au simple par des lumières supérieures. Telle est la marche de l'esprit humain. Quel est cet être qu'on aura d'abord invoqué? Sera-ce le soleil? Sera-ce la lune? Je ne le crois pas. Examinons ce qui se passe dans les enfants. Ils sont à peu près ce que sont les hommes ignorants. Ils ne sont frappés ni de la beauté, ni de l'utilité de l'astre qui anime la nature, ni des secours que la lune nous prête, ni des variations régulières de son cours. Ils n'y pensent pas, ils y sont trop accoutumés. On adore, on invoque, on ne veut apaiser que ce qu'on craint. Tous les enfants voient le ciel avec indifférence. Les colotalères grondent, ils tremblent, ils vont se cacher. Les premiers hommes ont sans doute agi de même. Il ne peut y avoir que des espèces de philosophes qui aient remarqué le cours des astres, les effets admirés et les effets adorés. Mais des cultivateurs simples et sans aucune lumière n'en savaient pas assez pour embrasser une erreur si noble. Un village se sera donc borné à dire « Il y a une puissance qui tonne, qui grêle sur nous, qui fait mourir nos enfants. Apaisons-la. Mais comment l'apaiser ? Voyons que nous avons calmé par de petits présents la colère des gens irrités. Faisons donc de petits présents à cette puissance. Il faut bien aussi lui donner un nom. Le premier qui s'offre est celui de chef, de maître, de seigneur. Cette puissance est donc appelée Monseigneur. C'est probablement la raison pour laquelle les premiers Égyptiens appelèrent leur dieu Klef, les Syriens Adoni, les peuples voisins Baal ou Bel ou Melch ou Malok, les Sites Papé, tout mot qui signifie seigneur, maître. C'est ainsi qu'on trouva presque toute l'Amérique partagée en une multitude de petites peuplades qui toutes avaient leur dieu protecteur. Les Mexicains même, ni les Péruriens, qui étaient de grandes nations, n'avaient qu'un seul dieu. L'une adorait Mango Capac, l'autre le dieu de la guerre. Les Mexicains donnaient à leur dieu guerrier le nom de Vilipuzzi, comme les Hébreux avaient appelé leur seigneur Sabaoth. Ce n'est point par une raison supérieure et cultivée que tous les peuples ont ainsi commencé à reconnaître une seule divinité. S'ils avaient été philosophes, ils auraient adoré le dieu de toute la nature et non pas le dieu d'un village. Ils auraient examiné ces rapports infinis de tous les êtres qui prouvent un être créateur et conservateur. Mais ils n'examinaient rien, ils sentirent. C'est là le progrès de notre faible entendement. Chaque bourgade sentait sa faiblesse et le besoin qu'elle avait d'un fort protecteur. Elle imaginait cet être tutélaire et terrible, résidant dans la forêt voisine, ou sur la montagne, ou dans une nuée. Elle n'en imaginait qu'un seul, parce que la bourgade n'avait qu'un chef à la guerre. Elle l'imaginait corporel, parce qu'il était impossible de se le représenter autrement. Elle ne pouvait croire que la bourgade voisine n'eût pas aussi son dieu. Voilà pourquoi Jephthé dit aux habitants de Moab: vous possédez légitimement ce que votre dieu Camos vous a fait conquérir. Vous devez vous laisser jouir de ce que votre dieu nous a donné par ses victoires. Ce discours, tenu par un étranger à d'autres étrangers, est très remarquable. Les Juifs et les Moabites avaient dépossédé les naturels du pays. L'un et l'autre avaient d'autre droit que celui de la force. Et l'un dit à l'autre: ton dieu t'a protégé dans ton usurpation. Souffre que mon Dieu me protège dans la mienne. Jérémie et Amos demandent l'un et l'autre: mais quelle raison a eu le Dieu Melkom de s'emparer du pays de Gad? Il paraît évident par ces passages que l'Antiquité attribuait à chaque pays un Dieu protecteur. On trouve encore des traces de cette théologie dans Homère. Il est bien naturel que l'imagination des hommes s'étant échauffée et leur esprit ayant acquis des connaissances confuses, ils aient bientôt multiplié leurs dieux et assigné des protecteurs aux éléments, aux mers, aux forêts, aux fontaines, aux campagnes. Plus ils auront examiné les astres, plus ils auront été frappés d'admiration. Mais le moyen de ne pas adorer le soleil quand on adore sa divinité d'un ruisseau. Et dès que le premier pas est fait, la terre est bientôt couverte de dieux, et on descend enfin des astres aux chats et aux oignons. Cependant, il faut bien que la raison se perfectionne. Le temps forme enfin des philosophes qui voient que ni les oignons, ni les chats, ni même les astres n'ont arrangé l'ordre de la nature. Tous ces philosophes babyloniens, persans, égyptiens, scythes, grecs et romains admettent un dieu suprême, rémunérateur et vengeur. Ils ne le disent pas d'abord au peuple, car quiconque eût mal parlé des oignons et des chats devant des vieilles et des prêtres, eût été lapidé. Quiconque reprochait à certains Égyptiens de manger leur dieu, eût été mangé lui-même. Comme en effet, Juvénal rapporte qu'un Égyptien fut tué et mangé tout cru dans une dispute de controverse. Mais que fit-on? Orphée et autres établissent des mystères que les initiés jurent par des serments exécrables de ne point révéler. Et le principal de ces mystères est l'adoration d'un seul Dieu. Cette grande vérité pénètre dans la moitié de la terre. Le nombre des initiés devient immense. Il est vrai que l'ancienne religion subsiste toujours, mais comme elle n'est point contraire au dogme de l'unité de Dieu, on la laisse subsister. Et pourquoi l'abolirait-on? Les Romains reconnaissent le Deus Optimus Maximus, les Grecs ont leur Zeus, leur Dieu suprême. Toutes les autres divinités ne sont que des êtres intermédiaires. On place des héros et des empereurs au rang des dieux, c'est-à-dire des bienheureux. Mais il est sûr que Claude, Octave, Tibère et Caligula ne sont pas regardés comme les créateurs du ciel et de la terre. En un mot, il paraît prouvé que, du temps d'Auguste, tous ceux qui avaient une religion reconnaissaient un dieu supérieur, éternel, et plusieurs ordres de dieux secondaires, dont le culte fut appelé depuis « idolâtrie ». Les lois des Juifs n'avaient jamais favorisé l'idolâtrie, car quoi qu'ils admissent des malakim, des anges, des êtres célestes dans l'ordre inférieur, leur loi n'ordonnait point que ces divinités secondaires eussent un culte chez eux. Ils adoraient les anges, il est vrai, c'est-à-dire ils se prosternaient quand ils en voyaient, mais comme cela n'arrivait pas souvent, il n'y avait ni de cérémonial ni de culte légal établi pour eux. Les chérubins de l'arche ne recevaient point d'hommage. Il est constant que les Juifs, du moins depuis Alexandre, adoraient ouvertement un seul Dieu, comme la foule innombrable des damnés initiés l'adoraient secrètement dans leur mystère.